Chapitre 13, de l'unité dans le corps du Christ. Point. L'union avec le Christ et l'amour fraternel. Unis avec le Christ en Dieu. Dieu a pour projet que ses enfants soient unis. Ne s'attendent-ils pas à vivre ensemble dans le même ciel? Le Christ est-il divisé contre lui-même? Donnera-t-il le succès aux siens avant qu'il n'ait rejeté les rebuts de la suspicion malveillante et de la discorde, avant que les ouvriers n'aient uni leurs projets et se soient dévoués pleinement à l'œuvre si sainte aux yeux de Dieu? L'union fait la force. La désunion la faiblesse. Unis les uns aux autres, travaillant ensemble dans l'harmonie pour le salut des hommes, nous serons alors des ouvriers avec Dieu. Ceux qui refusent de travailler dans l'harmonie déshonorent grandement Dieu. L'ennemi des âmes se réjouit de les voir travailler en désaccord les uns avec les autres. Ces personnes ont besoin de cultiver l'amour fraternel et la tendresse. S'ils pouvaient écarter le voile qui cache l'avenir et voir le résultat de leur désunion, ils seraient certainement conduits à la repentance. Tous unis en Christ, notre seule sauvegarde. Le monde se félicite de voir la désunion des chrétiens. L'infidélité est appréciée. Dieu appelle son peuple à un changement. L'union au Christ et les uns aux autres est notre seule sauvegarde en ces derniers jours. Ne permettons pas à Satan de pointer le doigt vers nos membres d'Église en disant, « Voyez comme ces gens qui se tiennent sous la bannière du Christ se haïssent les uns les autres. » Nous n'avons rien à craindre de leur part car ils passent plus de temps à se battre les uns contre les autres qu'à nous faire la guerre. Les croyants doivent sans cesse chérir l'amour qui remplissait le cœur des apôtres après l'effusion du Saint-Esprit. Ils doivent progresser dans l'obéissance au nouveau commandement, « Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » Fortement unis au Christ, ils sont rendus capables de réaliser ses exigences. La puissance du Sauveur qui peut les justifier de sa justice est ainsi magnifiée. Mais les premiers chrétiens ont commencé à observer mutuellement leurs défauts. S'arrêtant sur les erreurs, ils ont donné place à des critiques malveillantes, et ont perdu de vue le Sauveur et le grand amour qu'il a manifesté aux pécheurs. Ils devinrent plus exigeants pour les cérémoniels, plus pointilleux sur la théorie de la foi, plus sévères dans leurs critiques. Dans leur zèle à condamner les autres, ils oublièrent leurs propres erreurs. Ils oublièrent la leçon de l'amour fraternel que le Christ leur a enseignée. Et, le plus triste de tout, ils ne furent pas conscients de leur perte. Ils ne réalisèrent pas que la joie et le bonheur n'éclairaient plus leur vie, et que bientôt ils marcheraient dans les ténèbres, ayant exclu Dieu de leur cœur. L'apôtre Jean réalisa que l'amour fraternel avait disparu de l'Église et s'arrêta particulièrement sur ce point. Jusqu'au jour de sa mort, il appela les croyants à l'exercice constant de l'amour fraternel. Ses lettres aux Églises ont rempli de cette pensée. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, écrit-il, car l'amour est de Dieu, Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. » Dans l'Église de Dieu, aujourd'hui, l'amour de Dieu manque beaucoup. Nombre de ceux qui prétendent aimer le Seigneur négligeant d'aimer ceux qui sont unis à eux par leur appartenance chrétienne. Nous partageons la même foi, nous sommes membres de la même famille, tous enfants d'un même Père céleste, avec la même espérance bénie de l'immortalité. Combien forts et tendres devraient être les liens qui nous unissent. Les gens de ce monde nous regardent pour voir si notre foi exerce une influence sanctifiante sur nos cœurs. Ils sont prompts à discerner tout manquement dans nos vies, toutes les inconséquences de nos actions. Ne leur donnons pas l'occasion de critiquer notre foi. L'harmonie et l'union sont nos plus puissants témoins. Ce n'est pas l'opposition du monde qui nous met le plus en danger. C'est le mal entretenu dans le cœur de ceux qui professent être croyants qui prépare nos désastres les plus douloureux et retarde les progrès de la cause de Dieu. Il n'y a pas de façon plus certaine d'affaiblir notre spiritualité que d'être envieux, soupçonneux les uns à l'égard des autres, censeurs, supposant sans cesse le mal. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, Il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. L'harmonie et l'union qui existent entre des hommes aux inclinations diverses constituent le témoignage le plus puissant qui puisse être rendu au fait que Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour sauver des pécheurs. C'est notre privilège de porter ce témoignage. Mais pour le faire, nous devons nous placer sous les ordres du Christ. Nos caractères doivent être formés en harmonie avec son caractère, nos désirs soumis à sa volonté. Alors, nous pourrons travailler ensemble sans le moindre affrontement. En s'attardant sur de petites différences, nous agissons à détruire la fraternité chrétienne. Ne laissons pas l'ennemi prendre l'avantage sur nous. Rapprochons-nous de Dieu et les uns des autres. Alors nous serons comme des arbres de justice plantés par le Seigneur et arrosés par le fleuve de la vie. Et comme nous porterons du fruit. Le Christ n'a-t-il pas dit, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié ?» Quand nous croirons pleinement à la prière du Christ, quand ses instructions seront mises en pratique dans la vie quotidienne du peuple de Dieu, on verra l'unité d'action dans nos rangs. Le frère sera lié au frère par les chaînes d'or de l'amour du Christ. Seul l'Esprit de Dieu peut produire cette unité. Celui qui s'est sanctifié lui-même peut sanctifier ses disciples. Unis en lui, ils seront unis les uns aux autres dans la foi la plus sainte. Quand nous tendrons vers cette unité comme Dieu désire que nous le fassions, elle viendra à nous. Dieu n'exige pas un grand nombre d'institutions, de grands bâtiments, ni de démonstrations ostentatoires, mais l'action harmonieuse d'un peuple particulier, un peuple choisi par Dieu, précieux à ses yeux, uni, dont la vie est cachée avec le Christ en Dieu. Chacun doit se tenir à sa place, en son lieu, exerçant une bonne influence en pensée, parole et action. Quand tous les ouvriers de Dieu agissent ainsi, son œuvre formera un tout symétrique, achevé. Le Seigneur cherche des hommes à la fois sincères et ayant un esprit saint, des hommes qui sachent distinguer entre le vrai et le faux. Chacun doit être sur ses gardes, étudiant et pratiquant les leçons données dans le 7e chapitre de l'Évangile de Jean, et préservant une foi vivante dans la vérité pour notre temps. Nous avons besoin de cette maîtrise de soi qui nous rendra capables de mettre nos façons de faire en harmonie avec la prière du Christ. Le cœur du Sauveur est près de ses disciples qui réalisent le projet de Dieu dans toutes ses dimensions. Ils doivent être un en lui, même s'ils sont dispersés à travers le monde. Mais Dieu ne peut les unir en Christ s'ils ne veulent pas abandonner leur voie pour les siennes. Coopération. Lors de l'établissement d'institutions dans des champs nouveaux, il est souvent nécessaire de placer des responsabilités sur des personnes qui ne sont pas pleinement au fait des détails du travail. Ces personnes sont très désavantagées dans leur travail et, à moins qu'elles et leurs collaborateurs ne soient animés d'un esprit de désintéressement au service de l'institution du Seigneur, il en résultera un état de choses qui retardera sa prospérité. Nombreux sont ceux qui pensent que leur ligne de conduite ne les concerne qu'eux, et que personne d'autre ne doit leur faire la moindre suggestion. Ils peuvent ignorer les meilleures méthodes pour conduire l'œuvre. Cependant, si quelqu'un s'aventure à leur donner un conseil, ils se sentent offensés et se montrent plus déterminés encore à suivre leurs idées indépendantes. De même, certains ouvriers ne sont pas disposés à aider ou à instruire leurs collaborateurs. D'autres, qui sont inexpérimentés, ne désirent pas que leur ignorance soit connue. Ils commettent des fautes, au prix de beaucoup de temps et de matériel, parce qu'ils sont trop fiers pour demander des conseils. La cause des difficultés n'est pas difficile à découvrir. Les ouvriers ont été des fils indépendants alors qu'ils auraient dû se considérer comme faisant partie de la trame qui doit former le modèle. Ces choses offensent le Saint-Esprit. Dieu désire que nous apprenions les uns des autres. Une indépendance non sanctifiée nous place où il ne peut travailler avec nous. Satan se plaît à un tel état de choses. Chaque ouvrier sera éprouvé pour savoir s'il travaille en vue de l'avancement de l'institution du Seigneur ou s'il sert ses propres intérêts. L'orgueil de sa propre opinion, l'autosuffisance, est le péché qui est presque sans espoir et incurable. Il empêche toute croissance. Quand un homme a des défauts de caractère et ne le réalise pas, quand il est si imbu de lui-même qu'il ne peut voir ses fautes, comment peut-il être purifié? Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Comment quelqu'un peut-il progresser quand il pense que toutes ses voies sont parfaites? Personne, si ce n'est un chrétien au grand cœur, ne peut être un véritable gentleman.